Servicio Voluntario
Internacional.
J'avais déjà visité Bali, qui fait partie de l'Indonésie, aussi les Maldives. J'avais envie, en tant que projet personnel, ici on est toujours occupé, on court après le temps, la famille, le boulot, de faire quelque chose, de faire un break et de m'occuper, de prendre du temps pour les autres. Et c'est pour ça que j'ai voulu chercher un projet. L'Asie m'intéressait, donc c'est pour ça que je me suis orientée vers l'Asie. Et comme j'avais déjà fait Bali, Java, je me disais, voilà, c'est l'occasion.
D'accord, donc tu avais déjà fait une expérience en tant que touriste, et là tu voulais vraiment t'investir dans un projet en tant que volontaire. Ok, donc maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce projet en particulier et qu'est-ce que tu faisais? Donc, est-ce que tu peux nous raconter une journée typique, par exemple, de ton projet sur place?
Donc, comme je l'ai déjà dit, j'ai 3 enfants, donc moi j'avais envie de m'occuper d'autres enfants. Et donc j'ai trouvé le projet en fait, de travail dans un orphelinat de filles, où je donnais des cours d'anglais après l'école. Donc elles allaient dans différentes écoles, elles revenaient, et ensuite je leur donnais des cours. Le but était de leur permettre d'améliorer leur anglais, mais tout en leur ouvrant l'esprit sur d'autres cultures. Aussi les faire parler en anglais, les faire découvrir qu'est-ce que c'était le monde en dehors de l'Indonésie.
D'accord.
Et donc une journée type, le matin j'avais du temps un peu pour moi, pour préparer mes cours. L'après-midi, elle revenait un peu au compte-goutte en fonction de leurs horaires. Et ensuite on faisait une séance tout ensemble, où je présentais les différences de culture. J'ai fait également sur les volcans, parce qu'on a eu une éruption volcanique pendant que j'étais là. Ou alors comment se présenter, comment faire passer une interview, des choses comme ça.
D'accord. Et comment s'est établi le contact avec elle, du coup, assez naturellement? Ou est-ce qu'il y a quand même le choc des cultures? Comment ça s'est passé?
C'était assez naturel, je dirais. Il y avait une certaine différence, évidemment, d'âge. Donc, elles me considéraient un peu comme leur maman, bien qu'elles avaient encore toutes, plus ou moins toutes leurs mamans ou leurs parents. Elles sont là dans l'orphelinat pour des problèmes d'argent, leur famille étant très pauvre. Ils les placent dans cet orphelinat qui leur permet de continuer leurs études secondaires, en fait. Et après, peut-être aussi aller à l'université. Donc, moi, c'était aussi dans cet aspect-là de pouvoir, des filles dans un pays musulman, de dire, voilà, elles peuvent continuer, elles peuvent faire des études et avoir la possibilité d'avoir un travail intéressant.
D'accord. Et comment tu t'es préparée à ce volontariat? Est-ce que tu as été reçue? Est-ce que tu as reçu une petite formation de par l'association qui te recevait sur place?
Oui, tout à fait. Quand je suis arrivée sur place, pendant 3 jours, j'ai eu une formation dans leur centre, à la maison des volontaires, ils appellent. Il y avait d'autres personnes aussi, mais à ce moment-là, moi, j'ai suivi un cours sur les différences de culture avec l'Indonésie, ils me présentaient l'Indonésie, les différences de culture, comment gérer des conflits, s'il y en avait, et aussi des cours d'indonésien, ce qui est très difficile. On n'a aucun repère, à part quelques mots néerlandais parce qu'ils ont été hollandais avant leur indépendance, et donc j'avais quelques mots que je connaissais, mais sinon c'était très difficile d'apprendre l'indonésien. Ils parlaient également l'anglais un petit peu, mais je me débrouillais. Quand j'allais au marché, je parlais en indonésien, voilà.
D'accord, donc tu as su t'adapter sur place, mais c'était aussi grâce à la préparation que tu avais reçue de par l'association de volontariat.
Oui.
D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé donc en amont pour préparer ton voyage, donc tout ce qui est visa, vaccin ou passeport?
Donc pour aller en Indonésie, il faut un passeport et un visa qu'on peut demander avant de partir ici à l'ambassade, ou alors sur place, on peut, en arrivant à l'aéroport, on peut aussi prendre le visa, qui est valable maximum 3 mois.
D'accord.
Sinon, au niveau des vaccins, il n'y a rien de spécial, sachant que Java, ils disent pour l'Indonésie qu'il faut prendre des médicaments contre le paludisme, mais pas sur l'île de Java. Ce n'est que dans certaines îles reculées, donc aucun problème.
Ok, très bien. Alors, est-ce que maintenant tu peux nous parler de quelque chose qui t'aurait peut-être surpris sur place, une petite anecdote, une expérience qui t'aurait marqué?
Oui, il y en a pas mal, parce que c'est quand même une très grande différence de culture avec la nôtre au niveau des habitations, de la façon... On mange par terre, c'est pas une habitude de manger à table tous ensemble, par exemple. La cuisine, ça se résume à 2 plaques électriques et un évier, c'est tout. Et c'est encore un débarras derrière dans la maison, donc c'est pas la cuisine comme on connaît. Mais sinon, ce qui les choquait, par rapport à nous, c'est que ben, pour eux, le riz, c'est l'aliment principal. S'ils n'ont pas mangé de riz, ils n'ont pas mangé. Et donc, ils étaient vraiment étonnés que nous, en Europe, on ne mange pas de riz à tous les repas, qu'on ne cultive pas de riz, qu'on n'ait pas de bananes non plus. Voilà, c'était des petites choses avec lesquelles on rigolait ensemble avec les filles.
D'accord. Donc, je t'entends beaucoup parler de nourriture, donc ça me donne envie tout ça. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment tu as ressenti les spécialités là-bas ? Donc, tout est à base de riz, c'est bien ça ?
Donc, le riz est la base, mais ensuite, il y a beaucoup d'aliments, je dirais, comme le tofu, le tempeh, tout à base de soja, en fait. Donc, on mange un peu de poulet, mais sinon, c'est très bon, c'est très bien pour les personnes qui aiment bien... tout ce qui est, enfin, qui n'aiment pas beaucoup la viande, on va dire. Ce qui est mon cas, donc moi j'étais super heureuse. Bon, ils mangent assez épicé, donc je vais toujours demander pas épicé. Et même quand c'était pas épicé, c'était déjà très épicé pour moi quelquefois.
D'accord, donc c'était aussi une expérience culinaire, si j'ai bien compris. Alors maintenant, je vais te demander si c'était aussi une expérience musicale, parce qu'il me semble que tu nous as rapporté une petite musique de là-bas. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler et l'introduire avant qu'on la passe ?
Oui, je dirais que c'est dans leur tradition. C'est une musique traditionnelle javanaise. Ceux qui ont visité Bali connaissent le même genre de musique, mais celle de Java est un peu plus lente. Ça, la définition, quand il me l'expliquait. Et donc, là-dessus, j'ai vu, quand j'ai visité certains temples, il y avait des jeunes danseurs qui faisaient des pas de danse et qui, quelquefois, entraient en transe aussi, sur base de cette musique, en fait.
Ok, très bien. Bon, on va découvrir ça tout de suite. Avec Cynthia qui est partie en Indonésie avec le service volontaire international. Donc dans la suite de cette interview, je vais te demander pour les futurs volontaires qui seraient intéressés peut-être de partir dans ce pays, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner, quelque chose que tu as retenu de cette expérience, des facultés qu'il faudrait avoir pour être volontaire là-bas, etc.
C'est un petit peu difficile, je veux dire, il faut aimer l'Asie. Tout d'abord, pour moi, c'est ça le plus important. Il faut aimer les contacts. Moi, je voyageais là toute seule. J'ai visité et j'ai eu aucun problème. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment aucun problème pour visiter l'Indonésie, même en tant que femme, même dans un pays musulman, il n'y avait aucun problème. Il faut aimer la cuisine asiatique. Il ne faut pas aimer les steaks parce que sinon ça vous ne trouverez pas sur place. Mais c'est super facile pour se déplacer. Vous avez des bus qui s'arrêtent à n'importe où, à tous les coins de rue. Donc pour moi ça c'était vraiment super facile. Mais il faut pouvoir s'adapter. Je n'étais pas du tout dans le luxe qu'on connaît en Europe. J'avais un matelas par terre. Il n'y avait pas de... Et la salle de bain, c'était juste une grande bassine d'eau. Donc voilà, il faut pouvoir être prêt à avoir des conditions, je dirais, de non-luxe.
D'accord. Alors toi, tu étais en immersion totale donc, dans la culture là-bas, vu que tu es reçue et que tu travaillais en tant que volontaire dans une association locale, donc dans un orphelinat avec des jeunes filles. Est-ce que tu peux nous dire aussi s'il y avait d'autres volontaires avec toi ou est-ce que dans ce projet, tu étais la seule occidentale
Donc moi, j'étais toute seule dans mon orphelinat. Il y avait un orphelinat à 200 mètres de garçons où là, il y avait deux Allemands que j'ai rencontrés quelques fois. Et via l'association, il y avait aussi un autre Français qui était resté, en fait, qui était volontaire au départ et maintenant travaille dans une école. Mais sinon, dans la ville, il y avait très peu de non-asiatiques.
D'accord, ok, très bien. Alors, tu nous disais que ton contact là-bas, c'était très bien établi avec donc, les personnes adultes sur place de l'association et aussi donc, les jeunes filles avec qui tu as travaillé. Est-ce que tu peux nous dire si tu as gardé des contacts un peu avec...
Oui, j'ai gardé des contacts principalement avec les plus âgées parce qu'elles sont plus faciles à écrire ou à parler en anglais. C'est encore un petit peu difficile avec les plus juniors, justement. Dès qu'elles voulaient parler, elles avaient quelquefois des problèmes, je dirais. Mais donc, on rigolait, on faisait des choses ensemble. Donc, à distance, c'est un petit peu plus difficile de garder le contact avec certaines.
Ok. Alors, est-ce que maintenant, tu peux nous dire si tu envisages de reconduire ce projet en tant que touriste volontaire ou pourquoi pas dans un autre volontariat, dans un autre pays d'Asie ?
Oui, tout à fait. Pour moi, c'était une première étape. Et donc, j'envisage certainement de repartir à Java ou dans un autre pays, probablement encore avec des enfants, parce que ça m'intéresse toujours très fort. Mais oui, je serai partante, mais il faut que je prenne des congés pour ça,
D'accord.
au travail. Donc voilà, c'est ça un peu ma limite.
Ok, bah merci Cynthia pour ce retour d'expérience et surtout merci de nous avoir appris qu'il est possible, même en étant dans la vie active, de pouvoir faire un break comme tu l'as fait en tant que mère de famille et de pouvoir faire cette expérience personnelle qu'est le volontariat et tout l'investissement que ça demande. Donc merci beaucoup à toi.
Servicio Voluntario
Internacional.
Servicio Voluntario Internacional. International Volunteer Service.